9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Demain sera-t-il un long duel entre démocratie et empire autoritaire? C'est ce que nous annonce Nicolas Bavrez dans son nouvel essai. Il est mon premier invité ce matin. Et si l'avenir appartient à nos enfants, en quoi sont-ils différents de nous? La sociologue Isabelle Claire publie un livre-enquête sur les amours des adolescents d'aujourd'hui. Ça s'intitule « Les choses sérieuses ». Et ce qu'elle nous raconte est assez surprenant. Et l'on terminera l'émission avec quelqu'un qui vient juste de fêter ses 95 ans, c'est Serge Resvedi. On lui doit deux des plus belles chansons du répertoire français, Le Tourbillon et J'ai la mémoire qui flanche, interprété par Jeanne Moreau. Mais il en a écrit beaucoup d'autres. Un disque sort avec Philippe Catherine, Cali, Vincent Dedienne ou Dominique A qui chantent du Resvedi. Nicolas Bavrez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, économiste, avocat. La visite de Xi Jinping à Moscou lundi dernier et le choix de Vladimir Poutine de favoriser le yuan au détriment du dollar dans les paiements entre la Russie et les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, est-ce que ça vous conforte dans votre vision? À l'avenir, ce sera démocratie contre empire autoritaire.
Bien sûr, donc cette visite, elle est importante et elle est un pas de plus vers le rapprochement entre la Chine de Xi Jinping et puis la Russie de Vladimir Poutine. Il a été question évidemment d'énergie, mais il a été aussi question d'électronique, il a été question de manœuvres militaires. Donc on n'a pas encore une alliance véritablement soudée, mais clairement, c'est vraiment un axe qui se met en place. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore d'automaticité d'aide militaire de l'un vers l'autre. En revanche, l'alignement politique est très clair. Et le message qui a été envoyé est un message très clairement d'opposition à la démocratie et à l'Occident. Et ce qui est important, c'est aussi le contexte dans lequel cette visite s'inscrit, puisque d'un côté, Xi Jinping a mis en place sa nouvelle équipe autour d'un pouvoir absolu. La Chine venait juste d'opérer et de parrainer la réconciliation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ce qui montre bien son offensive via le Sud pour essayer d'encercler l'Occident. Et puis de l'autre côté, Vladimir Poutine venait d'être inculpé par la Cour pénale internationale. Et c'est bien une manière aussi de marquer que ces empires autoritaires ne reconnaissent plus l'ordre mondial qui a été instauré en 1945 et qu'il considère comme inféodé à l'Occident. Il n'en reconnaît pas la légitimité, ni les institutions, ni les règles.
Vous dites que nous vivons actuellement un basculement du monde. Quel est-il exactement?
Le basculement du monde, il est d'abord le basculement de la guerre d'Ukraine, c'est-à-dire que c'est la fin de ce qu'on avait cru être un moment de triomphe de la démocratie, de marché et de la paix, et qui a été en fait qu'un nouvel entre-deux-guerres.
C'est la fin du communisme en Union soviétique.
Exactement.
C'est la chute du mur de Berlin et la libération
89,
de tous les pays.
89, chute du mur, 91, effondrement de l'Union soviétique. Et là, finalement, on s'est installé dans un système, on pourrait dire qu'on a considéré que la guerre était impossible et la paix était acquise pour l'éternité. En fait, il y a eu beaucoup de chocs. Il y a eu le choc de 2001 avec les attaques contre les tours du World Trade Center. Derrière, il y a eu les guerres enlisées et perdues d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie, pour nous de Libye et du Sahel. Il y a ensuite eu le krach boursier. Il y a eu le premier signal majeur qui était l'invasion de la Crimée par la Russie. Et puis, il y a eu la pandémie de Covid. Mais on est resté aveugle devant tous ces chocs et on a cru que cette période, effectivement, continuerait. Et en réalité, aujourd'hui, on est dans un système complètement inversé. C'est-à-dire que c'est la paix qui est impossible et la guerre est omniprésente.
Mais
elle est présente sous forme de haute intensité et sous forme de guerre hybride. Puis, il y a une autre chose qui a changé aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est le cycle économique. On avait la mondialisation, la baisse des frontières, les marchés qui prenaient le pouvoir contre les États. Le monde a complètement changé avec l'enchaînement Covid et guerre d'Ukraine. Aujourd'hui, on est dans un monde qui se fragmente par blocs, des blocs qui sont des blocs idéologiques, politiques, militaires, mais aussi technologiques, juridiques, avec les systèmes de sanctions réciproques. On est dans un monde où l'inflation est de retour. Et donc, la structure de l'économie mondiale a aussi complètement basculé.
Mais qu'est-ce qui a mal tourné exactement pour nous, j'entends Nicolas Bavrès, parce que vous l'avez dit, la question semblait réglée à la fin de la guerre froide, la démocratie avait triomphé. L'ordre mondial, le nouvel ordre mondial à l'époque, hein, c'était le père de George W. Bush qui avait employé cette expression, était prêt de s'installer. À l'époque, la Russie était tout à fait d'accord, la Chine n'en était pas l'ennemi, elle entrait à l'Organisation mondiale du commerce, tout semblait réunir enfin toute la planète autour de plus en plus de liberté, à la fois commerciale et politique.
En fait, ça a été une grande illusion. Quand on regarde l'histoire du XXe siècle, Nietzsche avait raison, c'est le siècle des grandes guerres conduites au nom des idéologies. On a trois guerres mondiales, et la dernière qui s'est dénouée par l'effondrement l'Union soviétique.
Donc la guerre froide, qui n'est pas
exactement
tout à fait une guerre mondiale.
On a deux paix ratées, 1918, qui mène donc le traité de Versailles contesté et qui est un simple sursis avant une autre grand conflit mondial. Et 89 aussi a été une paix ratée. 45 a été une paix réussie. Pourquoi ? Parce que d'abord, les vaincus ont accepté leur défaite et ont accepté de se remettre en cause profondément. C'est principalement l'Allemagne et le Japon. Deuxièmement, le vainqueur a accepté de reconstruire, y compris les vaincus. Et puis, il y a eu une acceptation, la mise en place d'un système, d'un ordre international, alors qui était récusé par l'Union soviétique, mais qui était accepté par une autre large partie du monde. En 89, on n'a rien de tout ça. Ce qu'on a très bien vu avec Vladimir Poutine qui l'a dit, non seulement les Russes n'ont pas accepté l'effondrement de l'Union soviétique, mais Vladimir Poutine a explicitement dit que c'était la plus grande catastrophe historique
que les Occidentaux n'avaient pas tenu leurs promesses, qu'au lieu de se contenter de coexister avec la Russie, ils l'ont humilié.
Mais ça, c'est tout à fait faux. Si on regarde la vérité, c'est que la Russie a été intégrée dans le Conseil de l'Europe, elle a été intégrée dans l'OMC, un partenariat a été fait avec l'OTAN. Il a fallu très longtemps, il a fallu la Crimée, mais en réalité, la Russie a été réintégrée de plein droit dans la communauté internationale. Mais elle a fait des choix sous Vladimir Poutine, et elle a eu une évolution qui était une évolution de retour à un système qui n'est pas le totalitarisme, parce qu'on n'a pas le goulag de masse, mais qui est un système. On a des élections qui sont manipulées, et on a eu de plus en plus le retour à un système fondé sur le mensonge et la terreur. Et la désinformation, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais ce qu'on a manqué, et qui était très important, c'est que la grande illusion, la grande faute des démocraties, c'est d'avoir cru qu'on pouvait mettre le monde en pilotage automatique et ce qu'on a appelé la politique des dividendes de la paix. C'est-à-dire qu'on ne, contrairement à 45, on ne s'est pas donné la peine d'investir pour organiser le monde. On a voulu tirer des profits de court terme, profits de la paix et profits du capitalisme de bulle. Et c'est ça qui a donné tous ces chocs et ces catastrophes qui mènent à une situation. Et c'est vrai que la comparaison avec l'entre-deux-guerres les années 20 et 30 est assez fascinante. C'est-à-dire que en 1918 aussi, on a l'impression que les démocraties ont gagné. Et en 39, on a des pouvoirs autoritaires ou totalitaires partout en Europe.
On fait une pause, Nicolas Bavrès, et on va voir ce qui risque de se passer maintenant, à l'avenir.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec Nicolas Bavrès qui publie « Démocratie contre empire autoritaire » aux éditions de l'Observatoire. Nicolas Bavrès, la confrontation que vous annoncez entre les démocraties et les empires autoritaires, est-ce qu'elle peut se résoudre d'une autre façon que par une troisième guerre mondiale ?
Alors, heureusement, oui, mais ça suppose que les démocraties mettent en place une stratégie adaptée. D'abord, elle a déjà commencé parce que, en réalité, la Russie, elle est en guerre avec l'Ukraine depuis 2014. Et la Russie, elle mène une guerre hybride contre l'Europe avec l'énergie et le gaz, avec l'alimentation, avec la manipulation des migrants, avec la désinformation, avec le financement des partis populistes, avec la menace aussi militaire ou les attaques contre les infrastructures essentielles. Donc ça fait quand même...
Oui, nous, on est co-belligérants aussi dans cette affaire, on arme l'Ukraine.
Alors, On arme, mais on n'est pas co-belligérant. Co-belligérant, il faut être clair, ça veut dire qu'on a des soldats sur le terrain, et ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Mais tout ça pour dire que cette idée de confrontation, ce n'est pas une idée d'avenir ou ce n'est pas une hypothèse. C'est ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Alors, est-ce qu'une troisième guerre mondiale est inéluctable ? Non, je ferai la comparaison avec après 45. Après 45, au début de la guerre froide, avec une extrême tension, tout le monde est persuadé qu'on va vers une troisième guerre mondiale, et ensuite, y compris dans une dimension nucléaire, une fois que
l'Union soviétique... On le croit particulièrement pendant la guerre de Corée, d'ailleurs.
Évidemment, 50-54 pendant la guerre de Corée. Qu'est-ce qu'on a fait à l'époque ? C'est intéressant, il y a un diplomate américain qui s'appelait Kennan, qui en 1946 a fait ce qu'on a appelé le long télégramme, il était ambassadeur à Moscou. Et dans ce long télégramme, il y avait les choses suivantes. Premièrement, il faut qu'on ait conscience de ce que c'est que l'Union soviétique, donc il n'y a pas de possibilité d'accord, la politique de Roosevelt ne mène à rien. Deuxièmement, il faut donc cantonner militairement l'Union soviétique. Troisièmement, il faut à tout prix éviter l'escalade et une troisième guerre mondiale. Et quatrièmement, il faut maintenir des liens avec la société russe, parce qu'un jour ou l'autre, il est vraisemblable que ce système bougera de l'intérieur. Et je crois qu'aujourd'hui, les démocraties doivent réfléchir. On n'est pas dans la situation de 45, par exemple. C'est vrai que les États-Unis sont à la fois surpuissants et très fragiles. Donc, ce n'est pas l'Amérique de 45. L'idée que ce soit les États-Unis qui pilotent tout est une mauvaise idée. En revanche, on pourrait avoir trois piliers, un pilier nord-américain, un pilier européen et un pilier avec les démocraties asiatiques. C'est vrai qu'il faut faire du cantonnement militaire et technologique. Il faut évidemment éviter l'escalade, ce qui pour l'instant est quand même fait à peu près de part et d'autre en Ukraine, puisque les Ukrainiens ont du matériel occidental, mais qu'il n'y a pas de frappe sur le territoire russe avec du matériel occidental, et qu'à l'inverse, pour l'instant, les Russes veillent à ne pas frapper le territoire OTAN. Et que par ailleurs, entre les Chinois et beaucoup d'autres, on dit qu'il n'était pas question de recourir et de faire une escalade nucléaire. Il faut le troisième point qui est très important, les deux derniers points qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est très important de maintenir un lien avec la société civile en Russie et en Chine. C'est très important, parce que ces régimes sont quand même très différents et qui peuvent bouger différemment, d'être attentif le moment où des dissensions vont forcément apparaître, parce qu'il y a une telle inégalité. Et par exemple, aujourd'hui, la Chine est quand même en train de pousser la Russie en dehors de toute l'Asie centrale. Donc, il y a des tensions également entre les deux. Et c'est vrai que si un jour, il y a une possibilité de casser cet axe, ce sera très, très important. Et puis, ce que j'ai dit, il ne faut pas perdre le Sud. C'est très important. Et il y a des pays qui sont clés. L'Inde, pourquoi ? Parce que l'Inde est dans une position, un dilemme terrible. Son principal adversaire, c'est la Chine. À cause de sa masse démographique, puisque maintenant, l'Inde est plus peuplée que la Chine, c'est un des rares pays qui peut inquiéter la Chine, y compris sur ce plan-là. Et l'Inde, jusqu'à présent, s'approvisionnait principalement en Russie pour les armes. Évidemment, c'est le rapprochement et la connivence entre Moscou et Pékin est un problème majeur pour l'Inde. Et donc, il faut essayer de désarmer le plus possible le ressentiment anti-occidental de l'Inde. Et puis, elle ne s'alignera jamais sur l'Occident, mais elle peut être un point d'appui extrêmement précis. Et là, on a quand même des choses à faire, parce que on ne s'occupe pas des problèmes des pays du Sud. C'est vrai que pendant la pandémie, une fois qu'on a trouvé la solution qui était les vaccins, il faut quand même reconnaître que les pays développés ont été extrêmement égoïstes et qu'on a peu pris en compte les problèmes du Sud. Aujourd'hui, il y a des problèmes de sécurité majeurs en Afrique et c'est vrai qu'on n'a pas réussi à y répondre. Il y a des problèmes de développement industriel, il y a des problèmes de réchauffement climatique pour lesquels, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on aide beaucoup. Et il y a des problèmes majeurs de dette. Donc, les pays du Sud retrouveront un dialogue apaisé avec les pays et les démocraties occidentales quand on prendra aussi un peu en compte, et même beaucoup en compte, leurs préoccupations, et qu'on essaiera de contribuer à les aider à résoudre leurs problèmes concrets au lieu de projeter nos problèmes sur eux.
Merci Nicolas Bavrez. Je rappelle le titre de votre livre, Démocratie contre Empire autoritaire. Ça vient de paraître aux éditions de l'Observatoire.
Merci beaucoup.
J'en profite pour vous rappeler que tous les samedis et dimanches de 13h à 14h, Isabelle Morizet anime Il n'y a pas qu'une vie dans la vie et que cet après-midi, elle reçoit Olivier Babot, l'auteur de La tyrannie du divertissement. Et nous, dans un instant, on a rendez-vous avec la sociologue Isabelle Claire. Elle a enquêté sur les rapports amoureux des adolescents de ce début de 21e siècle. Et qu'est-ce qu'elle a découvert ? Suspense.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Isabelle Claire.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS et vous publiez Les choses sérieuses au Seuil, une enquête sur les amours adolescentes. Vous avez interrogé des jeunes des deux sexes, de toutes les catégories sociales, des cités, de la campagne, des beaux quartiers. Ça vous a pris combien de temps ?
Alors ça m'a pris presque 20 ans d'enquête puisque j'ai fait 3 terrains de 3 à 4 ans à chaque fois avec quelques interruptions entre chaque terrain et puis le temps d'écrire, voilà.
Donc c'est presque 2 générations en 20 ans, c'est presque les parents et les enfants que vous avez interrogés.
Alors pas tout à fait parce que ceux de mon premier terrain au début des années 2000 et ceux du deuxième en milieu rural sont à peu près tous nés entre 1988 et 1992 et les tout derniers par contre dans la bourgeoisie parisienne sont nés plutôt au tout début des années 2000. Donc là, oui, il y avait presque 10 ans entre eux. Donc, ce n'est pas tout à fait 2 générations quand même.
Ce que vous avez découvert vous a-t-il surpris ? Est-ce qu'ils sont très différents des générations précédentes ?
Alors, ce qu'on sait, ça, c'est plutôt des choses qu'on sait en population générale. Il y a des choses qui ont changé sur les pratiques sexuelles, en particulier celles des filles, en fait. Elles entrent dans la sexualité plus tôt que dans les années 60-70. Voilà, l'école y est pour beaucoup. Beaucoup de choses, en fait, se sont modifiées de ce point de vue-là. Et puis après, tout n'a pas changé. Et en matière de sexualité, en particulier de conjugalité, on a souvent l'impression qu'il y a un peu des révolutions toutes les 10 minutes. Alors qu'en vrai, dans les pratiques ordinaires, beaucoup de choses en fait sont très ancrées et changent en fait de façon très progressive. Alors savoir ce qui m'a surprise, c'est compliqué parce que en fait quand on travaille pendant près de 20 ans sur le même sujet, on est tellement immergé dedans que l'effet de surprise n'agit plus. Par contre, je vois dans la réception du livre des effets de surprise, notamment sur la permanence voilà. de certaines normes. Ça, je voilà. vois que ça surprend
moi,
les gens.
Vous dire, moi, j'ai été surpris. J'ai voilà. été surpris parce que en fait. C'est pareil qu'avant. C'est-à-dire que la différence des sexes existe toujours.
Mais en tout cas, elle est fortement intériorisée comme quelque chose de presque indépassable. Et c'est particulièrement fort à cet âge de la vie, au sortir de l'enfance, où certes, les enfants vivent dans des environnements mixtes, dans plein de lieux, dans la famille, à l'école, mais ils grandissent quand même de manière presque dans des mondes parallèles de sociabilité, de loisirs, etc. Et puis au moment de l'entrée dans l'adolescence, bon, il faut désirer l'autre sexe, il faut se mettre à avoir des conversations privilégiées, à passer plein de temps, à faire aussi des choses physiques. Donc ce moment-là est particulièrement remet en fait de la différence des sexes et un moment très fort de reproduction de cette représentation selon laquelle une fille et un garçon, vraiment, ça n'a rien à voir.
De même, l'amour, le couple, ça reste fondamental pour les filles dans leur vie sexuelle.
Oui, alors on attend des filles que, certes, elles ont... Donc il y a quand même des choses qui changent, c'est-à-dire
elles
que...
Elles sont plus libres sexuellement
elles
qu'avant,
sont plus libres
c'est indéniable.
Sexuellement. Il est même attendu d'elles qu'elles aient une sexualité pas non plus trop tard, voilà. Et en même temps, cette sexualité, pour être autorisée, pour être valorisable, elle
pour
doit
être
se faire...
Même.
Et pour être morale, convenable, elle doit se faire dans un cadre conjugal qui donne, sinon, y compris si c'est pas le cas, mais en tout cas qui donne les atours de la sentimentalité, du fait qu'elles sont amoureuses et donc elles ne prennent pas les garçons pour des objets, ce qui leur permet en fait d'accéder à la sexualité sans prendre le pouvoir dans l'échange sexuel.
Donc ça aussi, ça n'a pas changé.
Pas beaucoup.
L'injonction au sérieux, dites-vous, pèse plus lourdement sur les filles que sur les garçons. Elles veulent que les choses soient sérieuses, quoi.
Alors elles veulent que ça soit sérieux et on attend d'elles qu'elles soient sérieuses. Et ensuite, elles sont prises dans le sérieux. C'est-à-dire que ça, c'est un des double binds dans lesquels les femmes sont prises d'une manière générale. générale. C'est-à-dire que si elles ne sont pas sérieuses, ça ne va pas. Et quand elles sont sérieuses, elles sont trop sérieuses, elles sont des mégères, elles empêchent les garçons de faire des trucs.
C'est ce qu'on voit dans toutes les comédies romantiques en général. Hein.
C'est ça. C'est un motif qui perdure et qui les emprisonne beaucoup en vrai. Hein, parce que savoir ce qu'il faut faire du coup quand tout est un peu piégé, c'est une des difficultés qu'elles rencontrent.
Ouais. Bon, en même temps, à l'instinct, on y va et puis on arrive bien à s'en sortir. Ça fait des générations que ça dure, non ?
Alors à l'instinct, ça c'est une des difficultés quand on travaille sur ce genre de sujet, c'est-à-dire l'amour, la sexualité, c'est qu'il y a il y a quand même cette idée que c'est bon, quand même la pulsion l'emporte, la nature déborde, mais en vrai quand même quand on regarde comment les choses se passent, on voit bien que les conventions sociales font advenir la pulsion de la nature, tout ça de manière quand même très 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 organisée, et certes ça se passe, mais ça ne se passe pas que bien.
Mais c'est quand même intéressant, Isabelle Claire, de voir qu'en dépit d'une égalité sexuelle obtenue il y a un demi-siècle, hein, grâce à la pilule et à l'avortement, les filles restent différentes des garçons dans leur comportement et dans leur mentalité, presque dans leur conception de la vie amoureuse et sexuelle.
Oui, et en miroir, les garçons restent différents des
filles. De la même façon, absolument.
Est-ce que l'égalité sexuelle a été obtenue ? Je ne crois pas. Je pense que, bien sûr, des choses... La contraception, c'est un élément fondamental de maîtrise du corps, de distinction aussi entre la sexualité et la procréation. Donc, c'est quelque chose qui a transformé hein, la vie des gens, ça c'est sûr. Après... Tout ne se résout pas à cet endroit-là. Et le contrôle du corps des femmes reste un enjeu majeur. Et si le mouvement MeToo a eu une telle explosion à partir de 2017, a de tels retentissements et provoque aussi de telles résistances, c'est que quand même des choses sur le consentement n'étaient pas encore complètement réglées, ne le sont toujours pas. Et demeurent, en fait, y compris dans l'apprentissage de cette égalité sexuelle qui, certes, le consentement est même devenu une norme. C'est quelque chose qui est à l'œuvre dans les relations. Et néanmoins, il y a toujours aussi cette norme selon laquelle c'est aux garçons de prendre l'initiative, c'est aux filles de répondre, pas trop vite. Et donc là, il n'y a pas d'égalité, parce que c'est toujours dans ce sens-là.
Oui, dans le sens, ils sont différents.
C'est différent et c'est asymétrique. C'est-à-dire qu'une fille qui prend l'initiative, elle sera sanctionnée, pas seulement parce qu'elle sera différente, mais parce qu'il y aura un acte de pouvoir sur l'échange sexuel. Donc c'est une question de différence et c'est une question aussi d'asymétrie qui entre en tension avec le consentement qui lui repose sur l'égalité. Et c'est une tension qui est très forte dans les relations.
On fait une pause, Isabelle Claire, et on y revient tout de suite. Vous avez encore beaucoup de choses à nous apprendre sur nos propres enfants.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Les choses sérieuses, c'est le titre du livre enquête d'Isabelle Claire, qui est sociologue, directrice de recherche au CNRS. Un livre enquête sur les amours des adolescents d'aujourd'hui. Alors des adolescents d'aujourd'hui et d'hier ou d'avant-hier, hein, puisque vous nous l'avez dit, en fait, vous avez travaillé sur ce sujet depuis 20 ans. Mais néanmoins, on reste sur des adolescents. Vous les avez tous pris au même âge. Et de quoi s'aperçoit-on ? Eh bien, que les choses n'ont pas tant changé que ça. Hein. En tout cas, pas autant qu'on pourrait l'imaginer. La fluidité de genre, par exemple, est-ce qu'elle s'est emparée de la jeune génération ? Est-ce qu'ils sont devenus non-binaires ? Est-ce que l'hétérosexualité reste la norme ou bien c'est la bisexualité ?
Non, alors je pense qu'il y a un effet d'optique et que je retrouve beaucoup dans la réception du livre et dans le constat, dans la surprise en fait, que la norme hétérosexuelle reste dominante, que la différence des sexes reste fortement ancrée. Parce qu'en fait, il y a un effet d'optique d'abord dans le fait que les figures, les revendications en fait, qui sont des revendications politiques aussi, qui sont aussi des revendications subjectives, mais sur la non-binarité, sur la fluidité, font le buzz d'une certaine façon, occupe l'espace médiatique, occupe la scène publique de façon très très forte. Alors ça occupe les gens aussi individuellement, mais de manière beaucoup plus minoritaire que le buzz autour et surtout la panique morale que ça crée, en particulier chez les adultes, les parents, les grands-parents, qui ont la sensation que la jeunesse a complètement, devient contre nature.
Et que tout le monde va changer de sexe du jour au lendemain.
Alors qu'en fait, et ça c'est quelque chose, de ce point de vue-là, les sciences sociales sont toujours un peu déceptives parce qu'elles rappellent qu'en vrai, bon, il y a des normes, que les normes en fait se reproduisent et mettent très longtemps à se modifier, et que la majorité des gens sont dans la norme en fait, et que bien sûr il y a des choses qui se sont passées sur la dernière décennie en particulier qui mettent en tension cette norme là. Donc sur mon dernier terrain dans la bourgeoisie parisienne, j'ai vu une contestation de la binarité du genre, quelques personnes qui interrogeaient ça et qui faisaient plus que l'interroger, qui performaient justement le fait que la différence de sexe finalement c'était peut-être pas quelque chose à entretenir, que c'était peut-être pas ça le clivage social le plus pertinent pour comprendre les relations entre les gens. Bon voilà, donc bien sûr qu'il y a quelque chose qui de ce côté-là est en train de bouger, mais qui concerne à la fois très peu de gens, en tout cas en termes d'expérience, et surtout qui concerne plus de gens après la vingtaine en fait. Il y a aussi quelque chose dans l'adolescence et la fin de l'adolescence qui est un moment très fort d'apprentissage, d'ignorance, d'injonction très forte, de contrôle très fort de la part des pères, qui est un moment de dépendance au monde adulte aussi, donc un moment quand même d'hétéronomie très fort, et où le rapport à la norme peut être parfois un peu serré, quoi. La transgression de la norme est beaucoup plus coûteuse quand on a 14-15 ans que quand on en a 25, et on voit bien que sur les normes sexuelles et de genre, ça bouge plus, on le voit dans les enquêtes quantitatives aussi, ça bouge plus après, en fait, qu'à cet âge-là.
Et quelle est l'influence de la pornographie? Parce que ça a été une révolution quand même considérable. La pornographie est arrivée d'abord dans les cinémas, interdite aux moins de 18 ans, et puis elle s'est diffusée avec les cassettes vidéo, mais enfin, c'était encore un peu compliqué. Puis il y a eu le porno sur Canal+, et enfin, maintenant, il y a du porno absolument partout, en un clic, sur Internet. Est-ce que ça a eu une influence?
Alors ça, c'est une grande question des adultes. Ça fait partie de la panique morale sur le fait... Enfin, en fait, la sexualité, c'est quelque chose qui se dit très peu, qui se dit très peu en famille, pour lequel il n'y a pas de représentation légale, visuelle. Et une des raisons pour lesquelles les jeunes, enfin en tout cas ceux et celles qui m'ont parlé de pornographie, alors il y a de la honte aussi hein, autour de la pornographie qui ne rend pas forcément très facile voilà, l'échange sur soi avec une adulte sur ce sujet-là, y compris quand on a des relations de confiance, de durée, etc. Mais la pornographie est souvent vue par les plus jeunes en particulier comme plus que comme une source de plaisir en tant que telle, ça peut l'être et ça ne se dit pas forcément, mais comme une source d'apprentissage. Alors on peut se dire que c'est problématique parce que qu'est-ce qu'on apprend en même temps qu'on apprend la sexualité par la pornographie? C'est souvent la domination masculine, c'est plein de choses qui sont, pas toujours, mais quand même c'est un peu le scénario typique, et en même temps c'est un des seuls endroits où il y a de la sexualité explicite et où quand on ne connaît rien et qu'on ne sait rien et qu'on doit passer à l'acte, puisque tout le monde attend quand même que ça se fasse à un moment donné. Voilà, c'est une source d'apprentissage. Et je pense que d'une certaine façon, d'un certain point de vue, c'est évident, la pornographie est beaucoup plus accessible qu'avant, mais d'autres contenus sur la sexualité aussi sont plus accessibles qu'avant. Le fait, par exemple, qu'il y ait beaucoup de podcasts, qu'il y ait sur Internet, des choses qui soient accessibles de façon secrète, c'est-à-dire aller acheter un livre d'éducation à la sexualité dans une librairie, passer à la caisse avec le livre, être vu avec le livre ou la revue porno, en fait c'est très compliqué, alors qu'aller sur Internet ça permet aussi de pluraliser les sources de connaissances, et si on prend la pornographie comme une source de connaissances, et je pense que c'est en partie ça, même si voilà, ça peut
c'est
faire
en tout cas comme
oreilles,
ça que les adolescents
souvent,
la voient
voilà, et l'utilisent. En fait il y a des usages de la pornographie, ils ne sont pas juste des réceptacles d'images plus ou moins humiliantes, voilà, ils ont une réception en fait active de... Alors après, ça donne des choses, mais c'est pas flagrant, c'est pas quelque chose qui envahit ni leur représentation, ni leur pratique de la sexualité, comme on pourrait le croire parfois.
Dernière chose très intéressante dans votre livre, Isabelle Claire, enfin il y en a sûrement d'autres, hein, mais on s'arrêtera là à nous, c'est la figure de la racaille qui occupe une grande place dans leur représentation. Hein. Et alors moi j'ai eu l'impression que c'était la version au fond actualisée du rebelle à la Elvis Presley d'autrefois, c'est-à-dire le rebelle violent, viril, populaire, qui a pu enflammer les imaginations aussi bien des garçons des filles. Hein. Les garçons voulaient l'imiter, les filles en tombaient amoureuses, et ça s'opposerait au type sérieux, rassurant, avec qui plus tard, on fera des enfants.
Oui, la racaille, c'est le bad boy contemporain. Voilà. Ça va avec le fait que le rap est la musique la plus écoutée par les jeunes d'aujourd'hui. Alors, il y a plein de rap différents et en fonction de la classe sociale, on n'écoute pas forcément exactement le même rap. Mais en tout cas, la figure de la racaille comme figure, pas seulement positive, c'est une figure ambivalente, mais autant pour les adultes, c'est à peu près une figure unanimement négative, autant pour les plus jeunes, il y a une fascination. De la part des jeunes de cité, il peut y avoir de la peur. La racaille, c'est le modèle du jeune qui peut être violent, y compris à l'égard d'autres garçons, d'autres jeunes, mais qui en même temps voilà, est vraiment viril, transgresse l'ordre policier, etc. En milieu rural, où les jeunes que j'ai vus appartenaient aussi aux classes populaires, ben, pour eux, c'est la puissance politique des jeunes de cité qui attire à eux toute l'attention, alors qu'eux-mêmes n'attirent aucune attention. Et dans la bourgeoisie culturelle parisienne, où j'ai enquêté à la fin, la performance de la racaille, le fait de faire des photos en mimant la racaille, de se réapproprier les codes vestimentaires de la racaille, c'est une façon aussi, alors c'est une façon typique de cette jeunesse-là, de se réapproprier les codes du bas de l'échelle, c'est pas quelque chose non plus de très nouveau. Et puis pour tout le monde, la racaille, c'est, il est 100% hétéro, c'est un vrai mec. Ça, c'est sans aucun doute.
Et c'est sexy,
Et c'est sexy. Et ça permet d'ailleurs, par la racaille, y compris dans des milieux où justement l'homophobie peut être mal perçue du fait de la norme de la gay friendliness, en incarnant, en performant la racaille, c'est aussi incarner une autre figure en mettant un peu de distance avec elle, mais en se permettant du coup aussi de mettre en scène des choses qui peuvent être mal perçues, mais qui, par le détour de la racaille, par l'exotisation, sont possibles à dire et à performer physiquement.
C'est bien ce qu'on aurait dit d'Elvis Presley à la fin des années 50, c'est exactement pareil. Merci Isabelle Claire, votre livre est tout à fait passionnant, il s'intitule Les choses sérieuses, c'est un joli titre et il vient de paraître au Seuil. Et pour rester tout à fait simple, on écoute tout de suite Vianney et Mika qui nous chantent Keep It Simple. C'était Keep It Simple, interprété par Vianney et Mika, et dans un instant, un grand de la chanson française, c'est Serge Rezvani. On lui doit les plus belles chansons de Jeanne Moreau, mais pas seulement, il en a écrit énormément, un disque sort où elles sont interprétées par Dominica, par Vincent De Dienne, Léopoldine HH, Kali ou Philippe Catherine.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Serge Rezvani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, peintre, dessinateur, auteur de théâtre, auteur-compositeur de chansons éternelles, notamment des chansons de Jeanne Moreau, Le Tourbillon et J'ai la mémoire qui flanche. Et puis je vous souhaite un bon anniversaire, vous avez eu 95 ans jeudi.
Eh oui.
Félicitations, vous ne les faites pas, j'imagine que tout le monde vous le dit.
Oui, un petit peu, oui, on me demande comment je fais.
Et un album est sorti vendredi, Chansons pour Lula, dans lequel Dominique A, Kali, Philippe Catherine, Vincent De Dienne, Léopoldine HH interprètent des chansons de vous inédites ou introuvables. Je vous propose d'en écouter tout de suite un extrait. Est-ce lui, est-ce moi, Vincent De Dienne et Léopoldine HH.
Si grands plaisirs font la vie belle, est-ce bien nous qui sommes à nous ?
Serge Rezvani, j'aime beaucoup cette chanson. Elle fait partie donc des chansons pour Lula, mais dites-nous qui est Lula.
Lula, j'ai vécu avec une femme merveilleuse pendant 50 ans. Et dans un endroit merveilleux, on était très, 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 très unis, on s'est connus très jeunes.
C'est elle qui figure avec vous sur la couverture de l'album ?
Absolument. Et comme j'étais peintre, j'étais très fasciné par sa beauté aussi, quasiment hypnotisé pendant 50 ans.
Et c'est pour elle que vous avez écrit toutes ces chansons, véritablement, en pensant à elle à chaque fois ?
C'était surtout pour l'amuser, non, c'était pour la séduire surtout.
Et y compris J'ai la mémoire qui flanche ou Le Tourbillon.
Tout ce que j'ai écrit, c'était pour la séduire. Et je ne pensais même pas que ces chansons sortiraient de notre intimité. Et puis François Truffaut les a entendues, il les a beaucoup aimées. Il a voulu qu'elles franchissent le vallon dans lequel nous vivions.
Oui, puisque c'était dans Gilles et Jim hein, que pour la première fois, on a entendu Jeanne chanter.
Absolument.
Voilà. Vous en avez écrit combien en tout ?
Je vais sortir un livre chez Philippe Rey, où il y a 130 chansons.
Et puis vous allez sortir 3 albums digitaux, hein. Vous les chantez vous-même.
Oui, il y en avait même 6. Oui, j'ai un peu, mais il y a longtemps déjà, je les ai toutes chantées, oui. Un peu pour les fixer en quelque sorte.
Eh bien, il y en a un qui en a fixé une, je crois que c'est lui qui l'a choisi. Les grains de beauté, on l'écoute interprété par Kali.
Combien de fois te l'ai-je dit et répété, ça te fait rire. Tu ris toujours comme tu respires tellement l'amour. Le soleil sur ta peau joue à travers les branches reflétant la gaieté de nos rires d'été.
Serge Lasvali, elle s'intitule Les grains de beauté. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que personne n'avait fait une chanson sur les grains de beauté. J'ai pas le souvenir qu'on ait parlé de grains de beauté dans une chanson, alors qu'on parle de grains de beauté tout le temps, surtout quand on est amoureux d'ailleurs.
Ah oui, oui. Mais c'est une chanson d'amour, bien sûr, pour toujours Lula. Oui, bien sûr.
Toujours pour Lula, elle est inédite, hein, celle-ci.
Inédite, oui, c'est la première fois qu'elle est chantée là.
Il y a toujours une très grande gaieté dans vos chansons. Le tourbillon de la vie, exactement là. On l'entend, le tourbillon de la vie, de la même manière. Vous n'avez jamais écrit de chansons tristes ?
Si, si, j'en ai écrit quelques-unes quand même. Surtout quand ma femme est tombée malade de la maladie d'Alzheimer, j'ai écrit une chanson sur l'absence. C'est, non, non, il y a quelques chansons quand même. J'étais très gai avec elle pendant 50 ans, mais il y a eu quand même des moments vers la fin, quand elle a eu la maladie d'Alzheimer. Il a fallu que je fasse comprendre. J'ai écrit des chansons où j'ai essayé de lui faire comprendre à travers les chansons qu'il se passait quelque chose, mais c'était déjà trop tard.
Mais c'est presque l'inverse. Normalement, on écrit plus de chansons tristes que de chansons gaies quand on parle d'amour. Vous, c'est l'inverse.
Ah oui, j'ai été très heureux. Ces 50 ans, je ne dirais pas, le mot bonheur a été galvaudé, disons félicité. Voilà.
Il y a toujours eu des velléités de changer les paroles de la Marseillaise, qui est un chant patriotique, mais aussi un chant de combat. Eh bien, vous l'avez fait. Ça s'intitule « Pour une Marseillaise amie ». Et c'est Léopoldine H.H. qui a décidé de l'enregistrer.
Hein, j'aime beaucoup
pour cet album.
La chante, oui.
On en écoute un extrait.
Notre destin.
Serge Lasvani, vous vous souvenez à quelle occasion vous l'avez écrite, cette version de la Marseillaise ?
Il n'y a pas longtemps.
Ah oui, c'est récent.
Oui, très récent. En fait, ce n'est pas contre la Marseillaise, c'est pour ajouter quelques couplets gays, justement.
Plein optimiste. De optimiste.
Absolument. Et quand même, je pense qu'arroser nos sillons dans lesquels on va cultiver nos pommes de terre avec le sang de l'ennemi, c'est un peu triste.
Oui, c'est daté surtout.
Ça date beaucoup, je trouve aussi.
Vous avez également écrit une chanson pour la jeunesse. Elle aussi, elle est très optimiste. C'est Dominique A. qui a choisi de la chanter.
Ah oui, j'y tiens beaucoup à cette chanson.
Vous qui venez de naître.
Vous qui venez de naître à cette terre, vous à qui nous devons l'avenir. Refuser.
Serge Lasvani, voilà pourquoi je voulais vous recevoir dans C'est arrivé demain, parce que vous, c'est toujours tourné vers l'avenir.
Bien sûr.
Même à 95 ans, hein, toujours de la même
manière.
Je dis
que j'ai 100 ans moins 5.
Qu'est-ce que vous faites cet été ?
Ben justement, à propos de la Marseillaise, elle va être créée au Festival d'Avignon le 14 juillet.
Le 14 juillet.
À 9h du soir.
Au Festival d'Avignon, qui la chantera ?
Léopoldine. Oui, bien sûr. Et puis, je chanterai aussi.
Vous chanterez aussi. Merci Serge Lasvani d'être passé par Europe 1. Oui. Je rappelle que Chanson pour Lula vient de sortir dans les bacs, comme on disait autrefois
oui,
quand
d'accord.
Un disque sortait.
Mais je vous remercie aussi, bien sûr.
Europe 1.
C'est arrivé demain et parvenu à son terme. Je vous souhaite une très très bonne journée sur Europe 1. On se retrouve samedi prochain à 9h. En attendant, c'est Sonia Mabrouk avec le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Sonia.
Bonjour cher Frédéric.
Qui est votre invité ?
Je reçois ce matin le président de Reconquête, Éric Zemmour. Et pour l'interroger, je serai entourée de Cécile Cornudet et Mathieu Bock-Côté.
Eh bien, bonne émission.
Europe 1. Bienvenue chez Dacia Service. Votre contrôle technique approche ? Détendez-vous, on s'occupe de tout. Après un bilan préparatoire, direction un centre agréé pour le contrôle. Et pendant ce temps, un véhicule de remplacement vous attend.
Avec Dacia Service, à prix Dacia, votre Dacia se sent comme à la maison. En ce moment, profitez du pack contrôle technique avec bilan préparatoire et véhicule de remplacement à 99€ seulement. En plus, la contre-visite est offerte. Réservée aux particuliers jusqu'au 30 avril. Condition et prise de rendez-vous sur Dacia.fr.
Sylvia, mon amour, pour ce 75e anniversaire, on part en vacances avec Costa.
75e ? Mais nous sommes mariés depuis 3 ans.
On le sait, Sylvia. Mais Costa a 75 ans et vous propose pour cela 75 croisières à un prix spécial. Réservez la vôtre avant le 23 avril. Info en agence de voyage et sur costacroisière.fr. Costa.
Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction du Journal du Dimanche.
Ce matin, dans le Journal du Dimanche, réforme, grève, manifestation, Emmanuel Macron veut tenir... quoi qu'il en coûte. Et dans le JDD Magazine, enquête au Danemark, le pays où la politique d'immigration est devenue la plus dure d'Europe.
Le JDD, en kiosque et en version numérique.
Avec Hello Bank Pro, vous avez choisi d'être indépendant, pas d'être seul.
Le quotidien d'Amazon, c'est... mais c'est aussi... les impayés, les dépôts de chèques.
Avec Hello Bank Pro, bénéficiez de solutions de financement et d'encaissement par chèque, espèces, carte bancaire et de tous nos services bancaires utiles aux indépendants pour seulement 10,90€ hors taxes par mois. Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants. Sous réserve d'acceptation, détails et conditions sur hellobankpro.fr. Hello Bank est une marque de BNP Paribas.
Casino, avec vous sur le terrain du pouvoir d'achat. Retrouvez notre sélection.